Bonjour, je suis Étienne Mekiewicz. Donc, je vais introduire le programme de cette journée d'études pour le groupe de travail. Je vais juste citer Johanna Enescu, puisqu'on a cité l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, mais pas Johanna. Nous avons souhaité que cette journée vous permette de cerner les contours juridiques, historiques de cette journée. Je ne vais pas reciter l'article de loi, mais juste, on a demandé aux différents intervenants de partager également les doutes, interrogations, limites et différentes controverses hein, sur cette notion, afin que vous soyez bien armés et que vous ayez ces référentiels également. Donc, l'analyse de la pratique au prisme des droits culturels est une notion particulièrement importante dans l'appropriation de cette notion. Et donc, on a prévu des ateliers et des visites pour favoriser la découverte des pratiques professionnelles qui mettent en chantier les droits culturels. Plus largement, on a souhaité que cette journée vous permette de percevoir ce qu'induisent les droits culturels sur les politiques publiques dont on est chargé de la mise en œuvre. Donc, on pense que porter son attention sur la prise en compte des personnes et sur les conditions d'exercice des droits culturels des personnes est une forte évolution, peut-être même une révolution. On vous laisse trancher. En tout cas, merci pour votre présence. Avant de présenter, si c'était nécessaire, notre premier intervenant, juste un mot sur les modalités d'échange. Donc, on aura après une première intervention 20 minutes d'échange. Afin de faciliter l'expression et de garder trace de vos questions, on vous demande de privilégier les questions écrites sur les petits papiers qu'on vous a fait passer. Si vous n'avez pas de papier, on peut vous en redonner. Donc, de les faire passer sur les bords des travées. À la fin des échanges, les questions orales au micro seront également possibles. Mais encore une fois, merci de privilégier les questions écrites. Et donc, sans plus tarder maintenant, comme premier intervenant, nous avons le plaisir d'accueillir le philosophe Patrice Meyerbich, qui a coordonné le travail d'un groupe d'experts sur les droits humains au sein de l'Université de Fribourg dès les années 90, jusqu'à notamment la fameuse Déclaration de Fribourg sur les droits culturels de 2007. Patrice Meyerbich est actuellement président de l'association Observatoire de la diversité et des droits culturels, ce qui lui permet d'agir sur des journées comme celle-ci. Nous le remercions encore une fois chaleureusement pour sa participation.
Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut réactiver le partage d'écran éventuellement? Technique. Voilà, merci pour l'invitation. Merci pour cette belle journée. C'est un plaisir d'être, même si je ne suis pas là directement, de revenir à Lyon en fait, et de partager donc cette réflexion importante. Je voudrais indiquer d'abord sur le titre Évolution, Révolution, une approche de ce petit R entre parenthèses. R comme richesse. Avec les droits humains en général, on est toujours dans une tension assez forte. Pourquoi? Parce qu'il y a un droit d'accès immédiat, direct, important pour tous ceux qui, aujourd'hui encore, n'ont pas suffisamment accès à l'écriture et à la lecture. Et je mets bien toujours lecture et écriture ensemble. Mais qu'il y a aussi un infini. Il y a quelque chose de plus fort. Il y a un épanouissement qui est visé. Autrement dit, c'est à la fois hyper concret et c'est à la fois complètement idéaliste. Dit d'une autre façon, la bibliothèque est au cœur de cette dialectique. Pourquoi? Parce qu'elle a chacun d'entre vous, en tant que professionnel, comme chacune et chacun qui pénètre et vive assez dans ces univers de livres, ont la conscience qu'il y a une richesse infinie qui se trouve ici. Et c'est bien l'idée de révolution. Il faut évoluer vers plus de richesse, mais est-ce qu'on y arrive à quel prix en face d'une pauvreté extrême? Donc, comment c'est ce que l'on peut faire. J'arrive, on y arrive. Excusez ce contretemps. Voilà. Et donc, il y a cette tension extrême entre une immense richesse et en même temps également autour de nous une immense pauvreté et d'une façon plus générale, un aspect infini. On veut toujours savoir davantage. Les droits culturels, c'est d'abord le désir fondamental, métaphysique, essentiel de savoir. Tout homme désire par nature savoir, écrit Aristote au premier livre de sa métaphysique. Et c'est ce sur quoi je veux avancer. En préliminaire, une définition simple, les droits culturels sont des droits d'être pleinement reconnus comme auteur de sa propre vie et de ses liens avec les libertés et les responsabilités qui en sont inséparables. Auteur au sens FOP, celui qui agit. Auteur, celui qui en est responsable et libre. Auteur, celui qui va continuer et qui peut partager à augmenter constamment. Donc, je parlerai toujours des droits, mais aussi des libertés et des responsabilités. Voilà. Donc, je vais prendre deux points. Excusez-moi, je me dépatouille un peu avec la technique, mais on va y arriver. Deux points. Un point sur une introduction plutôt philosophico-politique, c'est-à-dire le rapport entre culture et droit, fondamentaux tous les deux. Culture au sens fondamental et commun, et le tout réuni par ce qui est commun. Tout homme désire par nature savoir. Ça veut dire que chaque domaine culturel traverse la distinction privée-publique. J'insiste ici sur le mot public. Tout à l'heure, on a parlé des publics et la loi citée par leur action de médiation. Les bibliothèques garantissent la participation, la diversification des publics à l'exercice de leurs droits culturels. La notion des publics au pluriel a un intérêt administratif. Mais dans la réalité, ce qui compte, c'est de considérer le public comme un acte. C'est la bibliothèque qui est publique et qui crée un espace public et qui crée un espace dans lequel les personnes qui participent, avec toute la chaîne du livre, dans tous les sens du terme, eh bien, créent du public, créent un espace public. Nous sommes ici donc dans une approche complètement multimédia et qui est véritablement au cœur de toutes les logiques droit culturel. Tout homme désire par nature savoir. Par savoir, on peut entendre toutes les saveurs, les pratiques, les savoir-être, les savoir-faire, les savoir-faire savoir, bref, tout ce qui correspond au savoir-vivre. Donc la culture au sens large, parce que fondamentale. Donc vous connaissez cette définition de l'UNESCO, la culture doit être considérée comme l'ensemble des traits distinctifs spirituels et matériels, intellectuels, affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social et qu'elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les façons de vivre ensemble, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. Donc ce n'est pas le droit à la culture, pour reprendre la question de Nicolas Gallo, effectivement, droit à la culture, c'est beaucoup trop général et la culture est trop floue. L'article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme parle du droit de participer à la vie culturelle. La vie culturelle, c'est concret, c'est multidimensionnel. Mais là, nous avons un problème. Parce que la culture, ce qui caractérise une société ou un groupe social, vous avez donc ici une définition qui est collective. Or, nous voulons aujourd'hui une approche qui est beaucoup plus personnaliste. Vous avez donc aussi un objet. Qu'est-ce que c'est que cette culture extrêmement floue? Nous avons bien un problème de grammaire concrète. C'est pourquoi dans la déclaration de Fribourg qui a été évoquée tout à l'heure, donc on a promulgué comme texte issu de la société civile en ramassant ce qui était un peu dispersé dans les instruments de droit internationaux pour faire expliciter ce qui avait été vraiment largement caché, sous-développé dans l'ensemble des droits humains, la déclaration dite des droits culturels, que nous mettons d'ailleurs maintenant en révision pour faire une version améliorée. Bref, dans ce texte, nous proposons cette définition, le terme culture recouvre les valeurs, les croyances, les convictions, les langues, etc., par lesquelles une personne ou un groupe, donc on remet la culture, l'activité culturelle sur ses pieds, exprime son humanité et les significations qu'il donne à son existence et à son développement. Vous avez par contre une autre définition de l'UNESCO qui est beaucoup plus claire et simple, si j'ose dire. C'est celle que vous trouvez dans la Déclaration universelle sur la diversité culturelle et qui est reprise dans la Convention de 2005. Une activité culturelle, dès lors qu'elle ne se réduit pas à une production, mais contribue à la communication en tant que porteuse d'identité, de valeur et de sens. Et là, nous avons évidemment l'activité d'écriture et lecture qui est complètement centrale, parce que, à la fois, comme toute activité culturelle, mais là c'est tellement manifeste, à la fois c'est une fin en soi, c'est le plaisir de lire, d'écrire, de partager, de lire ensemble, de lire à haute voix, d'écrire, de reprendre. Et il n'y a rien de plus utile. Et là, on est au cœur de ce qui est fondamental, aussi bien pour le culturel. Le culturel, qu'est-ce que ça veut dire, une vie culturelle? C'est accéder à des ressources culturelles de qualité et être capable de s'incorporer des références culturelles, autrement dit, des savoirs. Accéder à des ressources culturelles de qualité, toutes les ressources de savoir, et être capable de se les incorporer, de manger des livres, comment dire, de se nourrir les yeux, de se nourrir les oreilles, de se nourrir le corps tout entier, de se nourrir les gestes, la façon de créer nos liens sociaux, mais aussi de les dénouer. Chaque droit culturel, mais chaque droit de l'homme en général, est une jouissance en lui-même. Le plaisir de l'alimentation, le plaisir de la santé, comme le plaisir ici de la lecture et de l'écriture, et en même temps, chacun de ces droits est ce qu'il y a de plus utile, de plus pratique. Et cette opposition ou espace dialectique magnifique entre l'utile, le pratique et la finalité, entre la recherche théorique, c'est-à-dire du plaisir de connaître, du plaisir de savoir, et la recherche du plaisir d'agir, de pratique, eh bien ce qui fait cet aspect du R, de la révolution. Non pas qu'on va faire la révolution comme telle, on n'en a pas le courage, on n'en a pas la force, on n'en a pas l'intelligence, on n'en a pas les moyens, mais d'avoir une évolution qui a tout de même cette visée de comprendre pourquoi. Mais pourquoi, diable, il y a tant de gaspillage de richesses dans notre monde actuel, tout proche de nous et plus lointain, alors qu'il y a une tellement grande richesse. Donc, il est le lien ici entre une approche personnaliste des droits humains et la réalisation d'une vie culturelle de qualité. Une approche personnaliste ne signifie pas une approche individualiste. Il n'y a pas d'un côté les usagers de la bibliothèque et de l'autre côté la bibliothèque, la collectivité, etc. Mais on a un ensemble de personnes qui, quelle que soit leur fonction, quelle que soit leur position, interagissent avec des ressources culturelles au milieu, ici, qui sont à la fois les livres, mais à la fois ce qui contient les livres, la bibliothèque physique, et à la fois l'institution sociopolitique qui permet de la réaliser. Donc, autrement dit, ici, le droit de participer à la vie culturelle est le droit de participer à des actions de lecture, d'écriture, en tous sens. Avec, là encore, une autre grande dialectique qu'on trouve dans tous les droits humains, mais qui est tellement bien vécue dans le livre, que je reprends avec cette citation célèbre de César et Pavese, « Il est beau d'écrire, parce que cela réunit les deux joies, parler seul et parler à une foule. » Parler seul et parler à une foule. Et on a un peu la même chose quand on lit, parce que lire, c'est entrer dans ce grand débat public, même si on est tout seul dans sa chambre, et être autorisé à le faire en froissant des tas d'encre sèche sur du papier. On est en pleine magie, la grande, si vous voulez, la grande, j'allais dire, leçon, le grand espoir de la modernité qui continue à se développer malgré tout ce qui se passe aujourd'hui et qui est ici en pointe tellement visible dans le droit de lire et écrire. C'est bien qu'il y a une approche extrêmement optimiste, et je reprends la notion de richesse, à savoir que les ressources culturelles sont fabuleuses et sont partout. Et qu'entre les hommes et les femmes, il y a une source de richesse à prendre qui permet de développer et les hommes et les femmes. Mais cet optimisme n'est pas béat, il est dramatique, puisqu'on peut se poser la question pourquoi ça ne marche pas mieux quand on voit à quel point, et vous allez prendre des exemples aujourd'hui, ça marche bien dans plein d'endroits. Pourquoi ça ne marche pas mieux? C'est de dire que les obstacles sont extrêmement durs. Alors, je reprends juste un tout petit peu ici de grammaire politique pour montrer ici ce que c'est qu'une relation de droit. Vous avez chaque personne seule et en commun qui est sujet. Je dis, ce n'est pas une approche individualiste. Pourquoi? Parce que la lecture peut se faire ensemble et de toute façon, chaque personne est comme un nœud dans le tissu social. Elle est en même temps un tisserand du tissu social. Et la ressource culturelle qu'elle partage, ici l'objet, est comme un métier à tisser de ce tissu social, si vous me permettez de poursuivre la métaphore, dans ce pays de Canute. Et donc, dans le sujet pris comme personne, personne avec quelque chose d'infini, qui peut communiquer, qui n'est jamais toute seule au sens, sauf grand malheur, sauf sous la torture, sauf sous la honte de l'analphabétisme, de l'illettrisme. Et elle n'est jamais seule. Pourquoi? Parce qu'en pensant, elle pense dans la langue des autres, elle pense avec ce qu'elle a lu et écrit, elle pense avec ce qu'elle a rencontré. Donc chaque personne seule et en commun a le droit de participer à, ici, une vie culturelle sous ses différentes formes, à accéder à des ressources culturelles de qualité. Et qui sont, quand vous avez un droit, vous avez un sujet, vous avez un objet, vous avez des débiteurs, eh bien, c'est les autres. C'est évidemment, dans le cas présent, vous-même, les professionnels du livre, mais c'est aussi évidemment les parents et tout un ensemble de parties prenantes de la bibliothèque qui sont là. L'enjeu ici est bien de comprendre ce que c'est qu'un commun. L'approche fondamentale et l'approche R, évolutionnaire ou révolutionnaire, consiste à tenir en même temps une approche totalement personnaliste et une approche totalement commune. Ni individualiste, ni collectiviste, mais personnaliste et commune. Au sens de la définition d'un bien commun, tel que le fait Eleanor Ostrom, par exemple, que chaque bien commun, c'est une ressource, une communauté qui la partage et des règles de fonctionnement. Une ressource, des livres, une bibliothèque, une communauté de lecteurs, de professionnels et des règles de fonctionnement. Et tel est le bien commun qui permet de faire le lien entre tous ces éléments. Alors, vous avez plusieurs sources de commun. Une participation à la vie culturelle, c'est déjà un commun. Les ressources et références culturelles sont d'autres communs. Voilà. J'en dis pas plus parce que le temps avance. Vous pouvez trouver une analyse de ces développements dans ces deux ouvrages qui se trouvent en accès libre en ligne. Je passe maintenant plus précisément avec Alberto Giacometti, avec le cercle des couleurs. Il montre à la fois cet aspect du blanc intime et la diversité des couleurs qui fait la beauté des ressources qui pénètrent au cœur de l'intimité. J'entre un petit peu plus dans la notion de droit culturel. L'expression « identité culturelle » est prise souvent pour dire que les droits culturels, c'est des droits à l'identité. Et à ce moment-là, vous avez pas mal de réactions là-dessus. Chacun revendique son identité comme son précaré. Ça ne va pas aller loin. On la définit évidemment autrement. L'expression « identité culturelle » est comprise comme l'ensemble des références culturelles par lesquelles une personne, seule et en commun, je dirais aujourd'hui, se définit, se constitue, communique et entend être reconnue dans sa dignité. Donc un ensemble de références, c'est cela qui constitue. D'où, définition plus précise, les droits culturels désignent les droits, libertés, responsabilités pour une personne seule et en commun de choisir et d'exprimer son identité, de participer aux références culturelles comme à autant de ressources qui sont nécessaires tout au long de sa vie à son processus d'identification, de communication et de création. Chacune de ces ressources est évidemment un facteur de lien social parce que chaque ressource culturelle demande à être partagé. Participer à une ressource culturelle, en faire une référence, c'est évidemment chercher constamment des vis-à-vis, c'est être capable de créer des liens sociaux. Donc une ressource culturelle est un savoir, une saveur, une possibilité de partage. Savoir-être, faire, aimer, savoir participer, savoir faire savoir, tout ce qui est savoir-vivre. Donc c'est aussi concret qu'une personne qui découvre un jour qui était son père, qui découvre un jour un secret fondamental pour sa vie. Ce savoir que l'on cherche tous, et dans la littérature, et dans tous les domaines de la vie, tous les domaines de culture de la vie, ça peut être aussi bien dans le repas partagé que dans la musique ou dans un travail très, très simple de la vie quotidienne. Ce qui permet de définir de façon un peu plus sensible les droits culturels. Savoir connaître, ce qui veut dire aussi savoir se connaître. Savoir identifier, ce qui veut dire aussi savoir s'identifier. Savoir se reconnaître et s'identifier. Savoir reconnaître, être reconnu et identifié. Identifier comme quoi? Comme capable de savoir. Chaque homme, chaque femme a le droit de s'entendre dire « ton histoire m'intéresse ou nous intéresse ». Mais essaye de la dire au mieux. Essaye de l'écrire. Ce n'est pas simple du tout. Ton histoire m'intéresse, pourquoi? Parce qu'elle est singulière. Le droit de participer indique ici, je dois aller vite, hein, c'est juste un petit point central, accéder et connaître. L'action de se référer à des ressources culturelles, d'en prendre connaissance et d'en reconnaître la valeur pour soi et pour autrui. Donc ce n'est pas accès à la culture, mais c'est d'abord quand même accéder et connaître des ressources culturelles. Ensuite, c'est pratiquer, action d'apprendre et agir, expérimenter, etc., etc. Donc, c'est le droit de pratiquer et enfin, le droit de contribuer, action de produire, enseigner, créer. C'est l'action la plus épanouie, produisant une nouvelle richesse en partage. Il est clair que le droit de participer à la vie culturelle implique le droit d'être reconnu comme étant capable de participer de façon originale aussi, mais à condition d'accéder à une diversité de références et de ressources. Vous avez donc dans la déclaration dite déclaration de Fribourg, ici les principes généraux, et vous avez en 5 articles 8 droits, puis les articles d'application. Les 8 droits, c'est bien ceci, vous les avez, de choisir ses références culturelles, ses activités culturelles, droit de connaître, de participer au patrimoine. Et là, il est clair qu'on est dans une activité patrimoniale en bibliothèque. Liberté d'appartenir ou de ne pas appartenir à une communauté culturelle. On a souvent critiqué le droit culturel en disant que c'était une approche communautarienne. C'est absolument pas de sens, puisque c'est le droit d'appartenir ou de ne pas appartenir, de se référer ou de ne pas se référer à une communauté culturelle. Mais en tout cas, on insiste bien sur les notions de communauté, mais de communauté libre, des communautés de savoir, des communautés ouvertes. Et pour plus préciser notre propos ici, vous avez ici 3 droits culturels qui forment le cœur de toute vie culturelle et en particulier qui sont totalement explicites dans l'activité du livre, puisque c'est de la formation à apprendre, c'est de l'information, informer, s'informer, et le contenu même de formation, information, ce sont des patrimoines. Qu'il s'agisse de livres, qu'il s'agisse de la langue, et qu'il s'agisse de tous les patrimoines qui sont contenus dans les livres, puisque l'intérêt d'une ressource culturelle, c'est que non seulement c'est une jouissance en elle-même, mais c'est une jouissance qui donne accès à une infinité d'autres savoirs. Alors je crois que je vais terminer ici, sinon on va me dire que je suis trop long. Et je reviendrai peut-être dans la discussion sur ces notions de ressources et de références culturelles. Sachez simplement que En se référant à Bourdieu sur la notion de capital culturel, on peut dire une ressource culturelle et un capital, il écrit, est d'abord incorporé. D'abord incorporé, c'est physique. Et le livre aussi est physique. Et même quand il est numérisé, il reste physique. Et la notion d'immatériel ici n'a pas de sens. C'est d'abord incorporé et cela peut donner suite à une œuvre, mais une œuvre reste matérielle et sa matérialité est complètement centrale. Et évidemment, elle passe aussi par les institutions, c'est-à-dire des systèmes de reconnaissance, puisque en droit culturel, comme en droit de l'homme en général, le droit d'être quelque chose, c'est aussi le droit d'être reconnu comme capable. Rapidement, qu'est-ce que c'est ici qu'une qualité? Si toutes les œuvres n'ont pas le même pouvoir pour tous, il semble identifier clairement un critère de qualité, c'est l'espace d'interprétation qu'une œuvre ouvre, instruit et autorise. Une ressource culturelle de qualité, que ce soit une tradition, que ce soit un livre, que ce soit un établissement, que ce soit une institution, est de qualité dans la mesure où elle ouvre un espace d'interprétation et qu'elle l'instruit et l'autorise. Voilà, je termine par cette citation du fondateur d'ATD Quart-Monde. L'action culturelle est effectivement primordiale. Ah, je reviens en arrière, pardon. Elle permet de poser la question de l'exclusion humaine d'une manière radicale, plus radicale que ne le fait l'accès au droit, au logement, au travail, aux ressources ou à la santé. On pourrait penser que l'accès à ces autres droits devient inéluctable lorsque le droit à la culture est reconnu. Là, il écrit le droit à la culture, nous pensons le droit à la vie culturelle, le droit à la vie culturelle comme matrice du lien social. La valeur politique en deux mots ici. Chaque discipline est facteur de paix. La paix des langues, la paix des arts, la paix des religions, etc. Pourquoi? Parce que chaque discipline, chaque découverte d'une discipline, toute liberté culturelle est une liberté qui maîtrise les disciplines. Chaque découverte d'une discipline, c'est la découverte qui a un infini, qui a une ouverture, qu'il est là devant, et que cette ouverture demande du partage, et donc on a besoin de l'estime des autres, du savoir des autres. L'épreuve est la preuve, et la capacité de prendre en charge les maux communs pour faire face au bien commun. Je vous remercie. Là, c'est encore une image qu'on a fait au Burkina Faso avec l'école au centre du village, un travail qu'on a fait sur une société, participer à une société qui apprend.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, vous pouvez soit les poser directement à l'oral, soit me passer les petits papiers que vous aurez écrits.
Voilà, c'est un peu bousculé, un peu raide. Voilà. J'espère, je suis volontiers à l'écoute de vos questions.
Bonjour, j'ai une petite question, elle est peut-être un peu déplacée. À vous écouter, je m'interrogeais sur la notion d'œuvre d'art et de beauté. Et je me demande, mais c'est peut-être, on n'est peut-être pas au cœur du sujet, où est la place de l'œuvre d'art dans une approche de la culture qui englobe toutes les formes d'accès au savoir, a priori sans hiérarchie, y compris via le droit de chacun à produire une œuvre culturelle, et pas forcément une œuvre d'art. Que fait-on de cette espèce de transcendance qu'on peut trouver dans une œuvre d'art et dans une belle œuvre?
Oui, bien sûr que c'est au cœur du sujet. La participation à la vie culturelle suppose de l'excellence, nécessite de l'excellence, parce que pour répondre à la pauvreté, quel que soit le domaine, je reste ici dans la dimension culturelle de la pauvreté, il faut de l'excellence, on ne peut pas répondre avec des demi-mesures. Donc il faut ici des œuvres d'art, il ne faut pas seulement des beaux-arts, il faut de la beauté des arts. Et donc, ceci implique que l'excellence n'est pas réduite aux beaux-arts, elle doit se trouver dans les différentes dimensions de la vie. Mais ça n'est pas une relativisation de la qualité, bien au contraire, c'est sa généralisation. Il faut comprendre que pour arriver à une belle œuvre, encore faudra-t-il la définir, mais ça nous dépasse ici, eh bien, il y a besoin de toute une chaîne de valeurs. Il y a besoin de toute une série de parties prenantes. Il y a besoin évidemment des métiers d'art, mais ceci est vrai dans tous les domaines. Nous avons besoin aussi de la beauté des sciences. Nous avons besoin de la beauté dans tous les domaines. Et on pourrait le dire que le droit de participer à la vie culturelle, pour dire les choses de façon hyper classique, hyper simple, mais toujours vraie, c'est d'accéder au beau et au vrai, sous toutes ses formes. Donc on ne relativise pas, on ne banalise pas la beauté d'une œuvre d'art, on généralise à la beauté des œuvres. Je dois répondre de façon très brève, mais bien sûr, ça doit se développer de façon profonde. Et peut-être Anne, que je salue, pourra compléter après aussi. Mais si vous n'êtes pas content, vous pouvez continuer à poser des questions. Dans une bibliothèque, vous avez une quantité de livres de toutes sortes, hein, et qui ont chacun leur intérêt avant qu'on désherbe.
Alors, moi, si je peux poser ma question, j'avais une question par rapport à, avec les lois, les chartes, les déclarations. Est-ce que le droit culturel est opposable quand on interdit l'entrée ou quand on fait une sélection à l'entrée d'un lieu culturel, comme ça s'est passé pendant la période du Covid? Est-ce que ce droit est opposable ou est-ce qu'il est soumis à des décisions politiques du moment? Qu'est-ce qu'on doit faire avec ça?
Mais si vous voulez, les droits de l'homme sont d'abord des normes politiques et donc sont interprétés par le politique, et les règles de droit sont interprétées par le politique. Ici, en général, c'est le principe de non-discrimination qui s'applique. Donc si l'accès est interdit pour une raison réputée arbitraire, vous avez donc une discrimination arbitraire. Mais on peut interdire l'accès à des personnes à un lieu public pour des motifs, par exemple, de désordre. Et à ce moment-là, effectivement, il peut y avoir une décision de politique d'abord, et éventuellement s'il y a recours de justice pour définir si oui ou non l'excision était arbitraire. Oui, les droits culturels sont opposables déjà sous cette forme de discrimination. Nul n'a le droit de se voir méprisé dans les valeurs culturelles auxquelles il croit fondamentales. Nul n'a le droit de se voir dénié cette liberté d'adhérer, de se référer. Et ça ne concerne pas que les droits culturels, puisque vous avez une dimension culturelle dans la plupart, si ce n'est dans tous les droits humains. La loi qui définit la fonction publique de la bibliothèque que vous avez rappelée donne bien des obligations. Et donc, s'il y a des des obstacles à la mission de la bibliothèque, eh bien, évidemment, il peut y avoir action administrative ou action de justice.
Après, on peut pas nier qu'il y a quand même une politisation de la culture dans le sens où il y a des décisions politiques qui sont justifiées au nom de la culture en disant, par exemple, que des pratiques sont des pratiques culturelles, même si en fait ce sont des pratiques politiques. Je pense notamment au cas de l'excision, dont on parle souvent à la fois pour les personnes qui le défendent comme une pratique culturelle et pour les personnes qui le combattent comme une pratique politique, qui reflète une pratique politique de violence, notamment faite aux petites filles. Donc il y a quand même. La culture n'est pas apolitique. Et ce qu'on met derrière la culture, ce n'est pas apolitique. Ça ne veut pas dire que. Évidemment, il n'y a pas de respect pour les pratiques culturelles, mais c'est quand même intéressant de se questionner sur à quel moment on arrive, nous, à définir objectivement ce qui relève de la culture et ce qui relève du politique.
Ça, ce n'est pas possible. Nous sommes en logique systémique. Tout est politique et tout est culturel. La politique, c'est quoi? C'est une culture politique. Quelle est notre culture démocratique? quelle est notre culture démocratique dans la ville de Lyon, quelle est dans la ville voisine, quelle est, etc. Donc tout est politique, mais quand on dit politique, ça ne veut pas dire que tout est partisan. Mais tout est, voilà, la vie politique, une commune, c'est une communauté politique qui est fondée sur des valeurs et des lois qui sont des créations culturelles, qui sont des créations de la société. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas définir, il ne faut pas prendre la politique comme quelque chose d'essentialisé, ni la culture comme quelque chose, un système autonome à part. Ça n'aurait pas de sens, tout s'imbrique mutuellement. Alors, ceci étant dit, évidemment, il faut savoir où ça s'imbrique et comment. Voilà. Et donc, une pratique n'est pas bonne ou apolitique parce qu'elle est culturelle, pas du tout, elle est culturelle. La pratique de l'excision est une pratique néfaste par rapport à un ensemble de droits humains et par conséquent, c'est une pratique condamnable comme telle, mais qu'on ne peut pas condamner simplement du haut d'une approche occidentalo-centrée, mais qui implique un travail d'observation de terrain pour voir comment cette pratique s'est constituée, quelles sont les discriminations qu'elle a cachées d'abord, puis exacerbées, et comment on peut réinterroger avec les gens du milieu culturel concerné pour qu'ils fassent leur critique. Vous avez ce qu'on appelle, j'ai un ami en Mauritanie qui travaille sur ce point, et il pratique ce qu'il appelle avec ses étudiants et avec les membres de la société la contre-argumentation culturelle. Vous dites que l'excision, c'est une pratique culturelle, mais regardez un peu, c'est un bazar épouvantable qu'il y a derrière, et on peut le montrer avec des enquêtes. Et donc, si vous voulez, c'est pas parce que quelque chose est culturel que c'est coulé dans le marbre, au contraire, c'est du bricolage. Nos milieux culturels, il y a le pire et le meilleur. Et dans toute tradition, vous pouvez avoir le pire et le meilleur. Dans une université, vous pouvez avoir des choses absolument fabuleuses et vous pouvez avoir des discriminations, des refermements idéologiques, et c'est vrai partout. Donc l'avantage des droits humains, c'est que ça vous donne une liberté et ça autorise une liberté d'interprétation et de critique, mais dans les règles de l'art, ce qu'on appelle le respect critique. On a le droit de tout critiquer, mais à condition évidemment de partager, d'apporter des arguments et de recevoir soi-même la critique. Donc, il n'y a rien d'essentialisé. Ouais. Et quand on dit qu'il n'y a rien d'essentialisé, à l'inverse, l'excellence doit être recherchée partout, aussi bien dans les universités que dans les sociétés et dans toutes nos sociétés, quand on parle de l'équilibre des genres ou de la valeur des genres ou de l'habitat, du territoire ou de l'écologie. On a besoin partout de plus de sciences, de plus de savoir, de plus d'intelligence participative. On a besoin de plus de démocratie. Et les droits culturels, c'est les droits pour chacun de participer à du débat instruit et de contribuer au débat instruit. C'est, on pourrait dire, le béaba et le centre de la démocratie. Ce n'est pas, M. Jourdain, du tout, parce qu'on ne peut pas faire des droits culturels sans savoir. Ce n'est pas possible. Les droits culturels, c'est une jouissance explosive et c'est aussi une souffrance devant le mensonge. Le mensonge qui produit la guerre, le mensonge qui produit la médiocratie, on pourrait dire cela comme ça. Vous voyez, j'insiste bien, c'est une jouissance extrêmement forte. C'est forcément, quand on aime les livres, on est passionné. Quand on aime la musique, on est passionné. Quand on aime la biologie moléculaire, on est passionné. Hein, et c'est au même niveau et c'est incomparable. Donc, on n'a pas dit que toutes les valeurs culturelles, toutes les pratiques culturelles se valent, pas du tout. Elles sont incomparables et elles méritent toutes à être critiquées systématiquement, comme tout patrimoine. Je réponds un peu direct et brut, hein, c'est le jeu, mais évidemment, il faudra apporter beaucoup de nuances et de dialogue.
Encore 5 minutes pour les questions. Bonjour.
Bonjour.
Moi, quelque chose que je retiens d'intéressant dans la définition des droits culturels, c'est à la fois la notion de liberté
Et aussi la notion de responsabilité, qui est vraiment liée dans la définition qui est donnée par la déclaration de Fribourg. Et je voulais savoir si vous pouviez développer peut-être un petit peu autour de cette notion de responsabilité, concrètement, quelle responsabilité, qu'est-ce que ça implique, et peut-être c'est aussi dans ce dialogue entre la liberté et la responsabilité que peut se construire le vivre ensemble, en fait.
Oui. Merci. L'aspect droit, liberté, responsabilité, c'est la devise républicaine, traduite en langage universaliste, c'est-à-dire chaque droit de l'homme est un droit à exercer ses libertés et ses responsabilités. Et donc, ce n'est pas des droits simplement de revendication de besoins, c'est le droit de participer à une vie éducationnelle, à une vie de soins, à une vie de liberté civile, etc. etc. Alors ici, pour la responsabilité, on la voit bien dans l'éducation à l'école, mais c'est vrai partout. L'enfant a droit à une éducation de qualité, c'est-à-dire une éducation dans laquelle il apprend la jouissance de ressources culturelles, il apprend la jouissance du partage de ces ressources, et immédiatement, il apprend, pour participer, il faut qu'il soit capable de répondre. Donc, il apprend ses responsabilités, on lui dit qu'il doit faire ses devoirs, évidemment, et ce n'est pas du tout une contrainte, c'est pas du tout un obstacle aux libertés, enfin, c'est un obstacle à surmonter, pardon. Voilà. Toute liberté implique, je le disais rapidement, la maîtrise de discipline, et de discipline qui permettent de donner un espoir de participer à de l'excellence. Voilà. La notion de discipline, elle est extrêmement importante et elle donne aussi l'amour du rapport entre les deux acteurs de l'apprentissage, celui qui apprend et celui qui apprend. Et avec tout ce qui va avec et qui donne certaine sécurité parce qu'une discipline permet de donner des étapes et de donner l'espoir de parvenir à s'élever à ce niveau-là. Donc la responsabilité, on est tous responsables ou co-responsables de l'ignorance des autres, de notre ignorance politique. Donc les droits culturels, c'est aussi les droits d'exercer ses responsabilités, qu'on pourrait dire le droit de parents auxquels on enlève leur enfant par décision de justice, s'il n'est pas absolument, absolument nécessaire, eh bien, on enlève à quelqu'un le droit d'exercer ses responsabilités, et ça, c'est l'humiliation fondamentale. Donc, le droit de répondre en tout coin. Une liberté, c'est une liberté instruite des ressources culturelles qui existent et de ses responsabilités par rapport à ces ressources, c'est-à-dire au maintien, par exemple, de continuer à développer une langue de qualité. Et c'est important d'apprendre ça tout au long de sa vie, que la langue est tellement plus riche que celle à laquelle on n'arrivera jamais. Donc c'est une liberté instruite de ses responsabilités par rapport à l'entretien de ressources de qualité, du partage de responsabilités, et donc une liberté instruite de ses responsabilités par rapport à soi-même et par rapport aux autres. Donc, on n'est pas du tout dans une approche idéologique, j'espère que vous comprenez bien. C'est vraiment une approche tout à fait fondamentale du développement de la citoyenneté, de l'émancipation du citoyenneté, pas de la libération d'aller où, n'importe où, mais la libération de trouver précisément un bien commun. Je ne l'ai pas beaucoup explicité. Le bien commun, c'est ce qu'il y a de plus intime et en même temps de public. Qu'on voit si bien dans la lecture que nous avons évoquée. Donc, nous sommes tous co-responsables par rapport à la langue que nous employons, par exemple, comme nous sommes tous co-responsables de nos médias, comme nous sommes tous co-responsables du niveau politique qui existe dans nos communes et dans nos pays. Voilà.